Ce matin, nous allons commencer une étude d'une des lettres de Paul, la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens. Et j'appelle cette lettre une bonne nouvelle, la bonne nouvelle pour une église à problème. Vous savez, dans l'atelier d'un artiste, on peut trouver des tâches, on peut trouver du désordre, mais il faut pas s'arrêter à l'atelier, il faut regarder l'artiste, il faut attendre le produit final. Et ça, c'est l'histoire de l'église de Corinthe, c'est l'histoire de toute église, comme le BTM. Et ce matin, nous allons commencer à voir comment Dieu voit son église, malgré ses imperfections et ses problèmes. Donc, je vous invite à faire une lecture au début de cette épître, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 9. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 9. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, une des choses les plus remarquables de cette lettre, ce sont ces versets d'introduction. Parce qu'au vu de nombreux problèmes et de nombreux dysfonctionnements de cette Église, on s'étonne que Paul est rempli de reconnaissance pour les Corinthiens. Comment Paul peut-il être reconnaissant? Comment peut-il être joyeux, positif quand il pense à cette église? Eh bien, c'est que Paul a une bonne conception de l'église de Dieu. Vous savez, il y a le symbole des apôtres. Il nous arrive, nous, de le chanter. Nous l'avons chanté la semaine dernière. Oui, je crois. Oui, je crois en Dieu le Père. Je crois en Jésus-Christ. Mais c'est une confession de foi chrétienne qui remonte très loin. Les premiers chrétiens... Le disait, par exemple, lors des baptêmes, on appelle ça le credo, ou le symbole des apôtres. Et vous savez ce que ça dit. Certains d'entre vous ont l'habitude de réciter ça, peut-être dans une liturgie que vous aviez l'habitude, mais on dit, je crois en Dieu notre Père, je crois en Jésus-Christ le Fils, je crois à la résurrection. Et à un moment, on dit, je crois à la Sainte Église. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous disiez là? Je crois à la Sainte Église et à la communion des saints. Alors, c'est vrai que la phrase à l'origine, on dit « je crois à la Sainte Église catholique ». Et il faut savoir que le credo existe avant l'Église catholique, comme nous l'appelons aujourd'hui. Et le mot « catholique » à l'époque voulait dire « universel ». Donc, beaucoup ont changé. On dit « je crois à la Sainte Église universelle ». Et c'est vrai que déjà, nous protestants, on a déjà dit, je crois, la Sainte Église catholique. En plus, une liturgie, on n'est pas habitué, donc peut-être vous ne le répétez pas souvent ce credo, mais les chrétiens de tous les temps, quand même, ont affirmé croire dans la Sainte Église. Alors ça, c'est intéressant. On comprend qu'il faut la foi pour croire en Dieu. Et certains, on voit autour de nous, ont du mal à croire en Dieu, dans la Trinité, dans la résurrection, il faut la foi pour croire à la résurrection. Mais est-ce qu'il faut la foi pour croire à la Sainte Église? Après tout, on regarde autour de nous, on voit des églises, on fait partie d'une église, on dit est-ce qu'il faut croire en l'église? Est-ce que c'est difficile d'avoir foi dans l'église? Mais justement, c'est quand même pas évident des fois de croire dans ce projet de Dieu qui est l'église. Pour beaucoup, le blocage vient justement au niveau de l'église. Oui, je veux bien croire en Dieu, mais c'est l'Église, non merci. Une des raisons principales que notre époque rejette l'Évangile, c'est qu'ils ont été déçus de l'Église, ou en tout cas d'une expérience qu'ils ont vécue dans leur conception de l'Église. Ceux qui disent « je suis chrétien non pratiquant », finalement c'est une manière de dire « je ne crois pas à l'Église ». Parce que dès l'instant qu'il faut pratiquer sa foi, ça veut dire « Église ». Et donc, quand on dit je suis un chrétien non pratiquant, c'est finalement une manière de dire je crois pas à la Sainte Église. Trop déçu, trop de mauvaises expériences, trop de mauvais témoignages. Non, merci. Vous savez ça, on l'a vu ça récemment, c'est facile d'apprécier l'architecture de Notre-Dame de Paris. Tout le monde applaudit cette beauté de l'architecture. Mais soyons honnêtes, l'Église n'est pas un édifice et quand il s'agit d'aller à l'Église et de vivre l'Église, beaucoup l'intéressent pas. Ils sont prêts à soigner l'architecture, mais une vie d'Église, une vraie vie d'Église telle que Dieu l'a conçue, non merci. Quand on se rend compte que l'Église c'est pas un bâtiment, l'Église c'est des gens, c'est là où ça se coince. Selon J.K. Chesterton, le meilleur argument contre la foi chrétienne, ce sont les chrétiens. Lui-même chrétien, il a dit, le meilleur argument contre la foi chrétienne, ce sont les chrétiens. Et c'est vrai que Paul, l'apôtre Paul, il aurait pu claquer la porte à la foi, être déçu de Dieu en pensant à cette église à Corinthe. Il aurait pu être très déçu des Corinthiens. Parce que c'est une église remplie de problèmes. Mais Paul, nous voyons, dans les versets que nous venons de lire, nous voyons que Paul croit à l'église, il croit à la Sainte Église. En verset 2, il est salué à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Comme vous allez voir la quantité de problèmes dans cette église, c'est étonnant que Paul qualifie cette communauté comme l'église de Dieu et pourtant c'est ce qu'il croit. Vous voyez, Paul n'a pas encore tiré un trait sur l'église de Corinthe, malgré ses problèmes, malgré ses immaturités, malgré ses imperfections. Et nous aussi, nous avons besoin de voir l'Église comme Paul le voit. Nous avons besoin d'aimer et de croire dans cette Église de Jésus-Christ, l'Église de Dieu à Toulouse, encore aujourd'hui. Donc ce matin, je vous invite à croire à la Sainte Église, aimer cette Église pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à cause de sa vocation sainte. Nous allons voir ça dans les premiers versets. Une raison d'aimer l'Église, c'est sa vocation sainte. C'est quoi une vocation? Le mot revient dans notre texte. C'est quoi une vocation? Une vocation, c'est un appel. C'est une mission. Un appel qui vous est confié. Et Paul commence en rappelant la vocation de l'Église. Il appelle ça l'Église de Dieu, verset 2, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, appelés à être saints. Déjà, il va falloir revoir nos définitions de l'Église et des saints, notamment. Beaucoup pensent qu'un saint est un super chrétien au-dessus du lot. Mais c'est pas ce que nous voyons ici. D'ailleurs, Paul n'aurait jamais qualifié des chrétiens de saints si les saints, c'est des super chrétiens. Parce que les Corinthiens sont loin d'atteindre la perfection morale. Non, les saints, c'est une manière de parler de tous les croyants. Ce mot rappelle plutôt que les croyants sont mis à part. C'est ça qui est aussi un Dieu saint, c'est un Dieu autre, un Dieu mis à part, un Dieu différent. Et les croyants sont mis à part, ils appartiennent désormais à Dieu. Ceux qui croient en Jésus-Christ, qui croient que Jésus-Christ les a rachetés, a payé pour eux à la croix, ceux qui ont répondu à son appel de le suivre, de sortir de ce monde, de ses pensées, de ses idoles pour suivre Jésus, ils sont appelés, ils sont saints désormais. Donc si vous croyez en Jésus, Dieu qui vous a racheté, que vous avez répondu à son appel de le suivre, vous êtes automatiquement, dans un sens, vous êtes automatiquement saint, vous êtes automatiquement sanctifié. C'est fort, ça. Et désormais, vous êtes appelé à refléter le caractère saint de Dieu. C'est ça la vocation de l'Église. Justement, le mot Église, ça vient quelque part de ce mot appelé. Nous sommes appelés hors de ce monde pour appartenir à Dieu et refléter son caractère. Alors, j'aime bien celui qui dit que une définition de l'Église, c'est l'Église, c'est l'Évangile rendu visible au monde. L'Église, c'est Jésus rendu visible au monde. Puisque Jésus nous a appelés, donné cette vocation sainte et maintenant, nous sommes appelés à cette communauté, à refléter le caractère de Dieu avec d'autres saints. Alors voilà la vocation de cette église à Corinthe. Mais maintenant, vous voyez que cette salutation, où il parle de saints et de sanctifiés, cette salutation est lourde de sens quand on pense aux défis qu'avait cette église à Corinthe, notamment dans cette ville de Corinthe. Avec la culture ambiante corinthienne tout autour, elle a cette vocation d'être une église sainte, une église de saints, comme nous l'avons tous. Comment était la ville de Corinthe? Eh bien, elle n'était pas si différente des grandes villes modernes aujourd'hui. Alors, je vais vous raconter un peu, mais je m'appuie sur des historiens, sur des commentaires de cette épître. Déjà, dans cette épître, on discerne un peu la culture ambiante de Corinthiens. Et maintenant, vous allez mieux comprendre cet appel, à quel point elle est fort pour cette église dans une culture comme celle à Corinthe. Tout d'abord, il faut savoir que la culture corinthienne était une société de consommation, notamment argent et sexe. La culture corinthienne était une grande société de consommation, avec une décadence marquée dans ses mœurs. Cela pour plusieurs raisons, mais déjà pour une simple raison géographique, c'est que Corinthe était très bien située sur une petite bande de terre entre deux mers. Si vous connaissez la Grèce, Corinthe est située sur cette petite bande de terre entre deux mers, et donc il y avait deux ports, deux grands ports, et qui permettaient un grand commerce et un grand trafic. Donc ces deux grands ports sont liés de 6 ou 7 kilomètres seulement, aujourd'hui il y a un canal entre les deux. Mais Corinthe était vraiment un grand centre de commerce, un grand centre de tourisme, avec tout ce que cela apporte dans une grande ville. Et avec tout ce monde, avec ces grands ports, cet argent partout, une certaine luxure, on comprend un peu la culture. Et notamment la devise de la ville, c'était « Tout est permis !»« Tout m'est permis !» C'est merveilleux. « Tout est permis !» Je peux faire ce que je veux avec mon corps, je peux faire ce que je veux avec mon argent, je peux faire ce que je veux avec la nourriture, je peux faire ce que je veux, tout est permis. Et vous comprenez, c'est dans ce contexte-là que Dieu appelle son peuple, la vocation de son peuple, l'appel, la mission de son peuple, c'est d'être un peuple à part, un peuple différent, un peuple saint. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que si l'évangile peut prendre racine à Corinthe, avec de telles mœurs, eh bien l'évangile peut encore prendre racine dans nos grandes villes et transformer des vies. Vous avez un petit aperçu de cette vie, de cette culture, en 1 Corinthiens chapitre 6. Paul rappelle, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Vous voyez, cette église, dans cette culture, a pu connaître aussi l'évangile, a entendu cet appel, cette vocation sainte. Voilà pourquoi on peut croire et se réjouir qu'il y ait une église dans des grandes villes comme Corinthe, comme Toulouse. Aussi, à Corinthe, il y avait une très forte culture de réussite, de concurrence, d'autosuffisance, ce qu'on appelle en France l'arrivisme. Vous connaissez ce mot? L'arrivisme, c'est lorsqu'on dispose de tous les moyens pour réussir, même pour écraser les autres, exclure les autres. L'arrivisme. Les Corinthiens étaient arrivistes. Il y avait une très forte culture de réussite, de concurrence. Déjà parce que la ville était très riche, le commerce et les entreprises, ça fonctionnait très bien, et donc les gens pouvaient réussir financièrement en travaillant. C'était une ville autonome avec ses deux ports et tout ça, et elle n'avait pas besoin des autres villes. Et donc elle était fière d'être meilleure que les autres villes aux alentours. L'archéologie a déterré plusieurs stèles que les individus érigeaient pour se féliciter, pour se jeter des fleurs. Voilà, moi j'ai réussi, j'ai payé tant d'argent et j'ai réussi, donc j'érige un monument à mon honneur. Quand même, faut le faire. Voilà ce que j'ai réussi à faire par mon intelligence, par ma sagesse, par ma débrouillardise, par mes richesses. J'ai réussi. Mais encore cette culture de concurrence. Vous voyez la vocation de l'Église, c'est encore de vivre autrement, vivre saint, vivre différemment que cela. Et se dire non, nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes ensemble, nous formons un corps. L'autosuffisance et l'indépendance et je suis meilleur que l'autre. L'Église vit autrement, c'est une attitude sainte qui est différente de ce monde. Nous faisons partie d'un corps qui dépasse ses murs. Et d'ailleurs, c'est certainement sciemment que Paul les salue en verset 2 en disant Je salue l'église à Corinthe et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Quelque part, il doit rappeler à ses Corinthiens, vous n'êtes pas la seule église là. Vous n'êtes pas les plus fidèles juste dans votre coin. Il y a des chrétiens partout qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est leur Seigneur comme le nôtre. Alors quand Claudia dit c'est une mauvaise nouvelle qu'elle quitte, non, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle parce que l'église de Saint-Cyprien, c'est notre équipe, c'est notre église aussi. C'est ensemble, nous vivons cette vocation sainte d'invoquer le nom de Dieu dans cette ville. Donc vous voyez, c'est un bon rappel qu'aucun groupe de chrétiens possède un monopole sur la présence, la sagesse, la puissance de Jésus-Christ. Et ça, ça va casser un peu l'attitude arriviste, de concurrence qu'on trouve à Corinthe. Donc vous voyez notre vocation, cette vocation sainte, d'être différent, d'être saint dans un monde qui n'est pas. Nous sommes appelés à être une communauté, un peuple qui incarne une autre culture, une autre attitude, que j'appelle une attitude sainte, que celle qu'on trouve autour de nous. Une attitude qui dit que le salut ne vient pas de l'argent, ou du sexe, ou des plaisirs du corps. Que le salut ne vient pas de la réussite sociale, de la concurrence, de la politique, de l'État. Le salut vient de Jésus-Christ. Et c'est ça, finalement, invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il qualifie, finalement, c'est aussi une définition de l'Église, c'est tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire tous ceux qui cherchent en lui le salut. Vous savez, la confession de foi de base des chrétiens à l'époque, qui les attirait tellement de soucis, c'est de dire Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, et ça veut dire que Jésus seul est Seigneur, pas César, pas les dieux et les idoles qui remplissaient la ville de Corinthe, pas la Vierge Marie, pas Jésus seul est Seigneur, et c'est son nom que nous évoquons. C'est ça, vivre saintement, différemment. Et ça, je trouve touchant, encore aujourd'hui, quand on pense à notre monde, c'est une bonne nouvelle qu'il y a une église, qu'il y a l'église de Dieu dans une ville. Parce que même aujourd'hui, on reconnaît que, vous voyez, de nombreuses voix s'élèvent pour dire qu'une société de consommation sans frein, qu'une société de concurrence sans scrupules, c'est pas forcément ce qui est de mieux pour une société, pour une ville. Et aujourd'hui, on essaie de revoir un peu cette société de consommation, cette société de concurrence. Et ben voilà l'Église. L'Église peut montrer autre chose. Nous avons cet appel, cette vocation sainte. Oui, je crois en l'Église de Jésus-Christ à Toulouse. Une deuxième raison, c'est à cause de ses grandes richesses. On peut croire à l'Église, on peut se réjouir de cette idée de Dieu qui est l'Église à cause de ses grandes richesses dont elle bénéficie. Là, dans les versets 4 à 7 maintenant. Vous voyez, il les salue et puis il commence à être avec beaucoup de reconnaissance. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Paul est reconnaissant pour la grande grâce et les richesses que Dieu a confiées à ses chrétiens à Corinthe. Et c'est déjà une grande qualité de l'apôtre Paul, je pense qu'il faut adopter nous tous, c'est d'être reconnaissant. C'est trouver, malgré les problèmes, malgré les critiques qu'il va ensuite faire, c'est trouver des sujets de reconnaissance. Savoir célébrer l'œuvre de Dieu dans les vies des personnes, même s'il reste du travail, même si c'est encore un peu les tâches et les désordres de l'atelier. Paul ici, je crois, il est sincèrement reconnaissant pour la grâce de Dieu dans cette église. Ce n'est pas de la flatterie, ce n'est pas du sarcasme. Il est sincèrement reconnaissant à Dieu pour ce que l'Évangile a déjà fait à Corinthe. Et c'est vrai, il est reconnaissant, même si ces chrétiens ont parfois abusé les dons et la grâce et la richesse que Dieu les a confiés. Et nous allons voir que les Corinthiens ont un grand problème avec précisément ces choses pour lesquelles il est reconnaissant. Il dit, vous avez été comblés de toutes les richesses en ce qui concerne la parole, et ensuite il parle de la connaissance, et puis tous les dons. Ces trois choses, les Corinthiens vivent assez mal ces choses, la parole, la connaissance, et les dons. Parce que chez les Corinthiens, ils sont très fiers de leur parole éloquente. Nous savons bien parler, nous savons bien prier, nous avons des orateurs éloquents, mieux que les autres. Ou bien la connaissance aussi, nous avons la connaissance, nous savons bien des choses sur la Bible, sur Dieu, nous avons la connaissance. Les dons aussi, ils sont très fiers, nous avons les meilleurs dons spirituels, voilà. Tant pis pour les autres, mais nous... voilà, ça c'est l'attitude que nous allons rencontrer par la suite dans cet épître. Mais Paul, pour l'instant, il rend grâce à Dieu pour cette grande richesse. Dieu a été gracieux envers eux. Dieu a donné son amour. Dieu il a donné sa parole. Il a donné la connaissance de l'évangile. Il a donné des dons spirituels avec largesse. Dieu est généreux. Même si ses enfants, parfois, ne gèrent pas bien les cadeaux et les grâces que Dieu donne. Et finalement, Paul va se réjouir déjà de ce témoignage de Christ qui a été vu dans la ville de Corinthe. Et je rappelle, c'est intéressant, on a dit que le meilleur argument contre la foi chrétienne, ce sont les chrétiens. Mais il faut ajouter aussi que le meilleur argument, un des meilleurs arguments pour la foi chrétienne, ce sont les chrétiens. Alors, n'oublions pas cela non plus. Un des meilleurs arguments pour la foi chrétienne, ce sont les chrétiens qui ont été transformés, qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont reçu ses dons, et qui ont investi cet amour, cette grâce, ces dons dans leur ville, autour d'eux. En ce moment, je lis la biographie de Arthur Guinness, la famille Guinness, qui est connue à cause de la bière. Alors ça, c'est pas dans mes notes, mais ma traductrice ce matin est irlandaise, elle va me pardonner. La famille Guinness, incroyable. La première génération croyante, très croyante, première génération a eu 10 enfants. Et puis tous ces enfants, ils sont partis dans différentes voies. Mais souvent l'aîné partait pasteur, église. Il y avait des évangélistes, il y avait des banquiers. Il y avait bien sûr la partie qui a repris la brasserie. Mais ils ont révolutionné la société, la ville de Dublin, avec des principes chrétiens. Ils ont le monde du travail, les droits aux salariés, tout ça, c'était inspiré par l'amour qu'ils ont reçu de Dieu, le désir de mettre en pratique leur don, leur vocation, dans un métier qui peut sembler étonnant, comme celle de la brasserie. Très touchant de voir l'impact qu'a pu avoir les chrétiens, le témoignage des chrétiens dans ce monde, grâce à ce qu'ils ont reçu de Dieu et qu'ils ont réinvesti dans la vie autour d'eux. Alors ça, c'est un beau témoignage. C'est vrai, maintenant, nous devons avouer que parfois les chrétiens n'ont pas eu ce bon témoignage. Ils n'ont pas reflété cette grâce. Ils n'ont pas pris les richesses que Dieu leur a données pour les partager humblement. Que penser de l'Église lorsqu'elle abuse la grâce de Dieu? Et c'est vrai qu'il y a une forme de spiritualité qui a souvent dégoûté les gens, les incroyants, et qui les a rendus méfiants par rapport à l'Église et par rapport aux religions. Et cette spiritualité, nous la trouvons même chez nous, même chez les évangéliques. Cette spiritualité que l'on voit dans une manière de parler, une manière de prier, une manière d'évangéliser, une manière d'être, qui dit, voilà, nous quand même, nous sommes bien et vous n'êtes pas bien. Nous sommes moralement supérieurs aux autres. Si Dieu nous bénit, c'est parce que nous avons été plus sages. Nous avons toutes les réponses, nous. Et cette attitude a pu refroidir, refouler pas mal de personnes. Et c'est malheureusement l'attitude qu'on va trouver un peu chez les Corinthiens. Ils sont quand même assez orgueilleux, assez fiers de leur spiritualité. Mais la solution à cette attitude, elle est déjà dans ces versets d'introduction. La solution, c'est de faire ce que Paul fait ici, c'est de rendre grâce à Dieu pour sa grâce. C'est de rappeler que tout vient de Dieu, que tout est par grâce. C'est quand même difficile à être orgueilleux et reconnaissant en même temps. Par exemple, juste pour vous comprendre avant de passer au troisième point, si votre oncle riche vous donne un Ferrari et vous perdez le permis par excès de vitesse, ou que cela vous rend arrogant et du coup vous associez plus à vos anciens amis, la solution, c'est pas de dire que les Ferrari sont nuls et moches. ou que les Italiens ne savent pas faire les voitures, ou de se mettre en foi avec l'oncle. La solution, c'est de revoir votre utilisation du Ferrari, peut-être déjà de cultiver une reconnaissance, et puis d'agir sagement avec ce don qui est pas évident à gérer, peut-être, tellement et puissant et flashy. Et les dons spirituels, tout ce que Dieu nous a donné, il faut rappeler, des fois, c'est un peu comme des Ferrari. Il y a beaucoup de puissance, beaucoup d'atouts, mais au lieu d'être orgueilleux, au lieu des excès de vitesse, nous pouvons être reconnaissants et savoir bénir d'autres. Donc, je rends grâce à Dieu, nous rendons grâce, nous croyons à la Sainte Église à cause de toute la grâce et l'amour que Dieu lui a donné. Si l'Église est l'objet de l'amour et la grâce de Dieu, elle peut être aussi l'objet de notre reconnaissance. Et enfin, je crois à la Sainte Église à cause de son bel avenir. Voilà pourquoi Paul peut aimer l'Église à Corinthe. Il pense à leur destinée. Il évoque le jour de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il sait en verset 8, « Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin. » pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on revient à l'image de l'origine. C'est Dieu l'auteur, c'est Dieu l'artiste, c'est Dieu qui est le garant de son Église. Pour l'instant, c'est le chantier. Pour l'instant, c'est parfois le bint. Vous vous souvenez ce que George Verver disait, j'aime bien, il aimait ma devise, mon verset préféré. C'était une blague, il disait, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, là, il y a le bint. C'est pas un verset de la Bible, mais c'est ce qu'il a compris avec ses années d'expérience dans la mission. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, c'est le bint. Eh bien, c'est vrai, c'est Corinthe. C'est l'église de Corinthe. Mais, Dieu vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Dieu est fidèle, c'est lui qui le fera. Croyez-vous cela au sujet de vos frères et sœurs? Déjà, quand vous avez du mal à supporter un frère ou une sœur en Christ, pensez à ce que cette personne sera un jour au ciel dans la gloire. Pensez à cette œuvre achevée. C'est C.S. Lewis qui disait ça. Votre voisin sur le banc d'église, votre voisin, s'il est chrétien, s'il est un frère ou une sœur en Christ, si vous le voyez dans la gloire, vous serez tenté de l'adorer. Alors, aujourd'hui, vous pouvez les supporter. On a demandé à Michel-Ange, le fameux sculpteur, artiste, peintre, comment il a fait pour sculpter son chef-d'œuvre, la statue de David. Comment il a fait pour sculpter son chef-d'œuvre David d'un bloc de granit. C'est encore, on s'émerveille de comment il a réussi à sculpter David. Apparemment, quand on lui demande comment il a fait, il a répondu, j'ai enlevé tout ce qui n'est pas David. Eh bien, c'est ce que Dieu fait avec nous, c'est ce que Dieu a fait avec son Église. C'est pour ça que nous pouvons croire à la Sainte Église. Tout ce qui est reprochable n'y sera pas pour les vrais enfants de Dieu. D'ailleurs, Paul utilise cette même réflexion pour apprendre aux maris comment aimer leurs épouses. C'est ce que nous avons lu ce matin en Éphésiens 5, qui est aussi une lettre qui célèbre l'Église de Jésus-Christ. Mais Jésus aime l'Église et compte faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est incroyable qu'il peut dire ça. Mais après, il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. C'est-à-dire, même quand il y a défaut dans le couple, on aime. Et c'est parce que Jésus aime son Église malgré ses défauts. C'est pourquoi on peut croire à l'Église. On ne croit pas en nous-mêmes, on ne croit pas à l'Église en soi. On croit dans la fidélité de Dieu envers son Église. Ce que voulait capter en quelque sorte le credo. Je crois en la Sainte Église, que Dieu a une vraie Église partout dans le monde, qu'il y a une vraie communion des saints grâce à son œuvre. Voilà ce que Paul célèbre dans ses versets pour démarrer son épître. Alors moi, j'ai eu le privilège d'avoir le texte qui est très encourageant, très joyeux. Le reste risque de se gâter un peu. Mais ce matin, nous voulons célébrer nos vies en permanence. Nous voulons célébrer l'Église Et si l'Église est l'idée de Dieu, nous voulons nous investir et nous voulons continuer. Croyez-vous à l'Église? Croyez-vous à la communion des saints? Des raisons ce matin, c'est parce qu'elle a une vocation sainte, elle a cet appel merveilleux de vivre une autre culture dans un monde autour de nous. Elle a de grandes richesses, de grands dons, qui sont des personnes et aussi des dons, et tout ce que Dieu nous a donné, elle peut utiliser pour faire du bien, pas pour s'enorgueillir. Et enfin, elle a un bel avenir, Dieu est en train de nous transformer. Son église, sa vraie église, il a promis de l'amener un jour irréprochable. Donc c'est cet avenir que nous regardons. Donc pour toutes ces raisons, nous pouvons et nous devons faire partir, investir notre vie dans ce projet de Dieu qu'est l'Église. Mais alors comment faire partie? C'est peut-être ça la question avec laquelle je termine. Comment faire partie de l'Église? Est-ce que c'est en fréquentant un lieu, en étant assis sur une chaise? Est-ce que je fais partie de l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ? Comment reconnaître la vraie Église? Parce qu'il y a effectivement Église et Église. Certainement, il faut éviter les étiquettes. Hein, l'Église protestante, l'Église catholique, l'Église machin. C'est ça, c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Nous, souvent, on reste à l'étiquette, je fais partie de telle ou telle église. Mais c'est pas le critère de Dieu. Le critère, nous l'avons peut-être certainement dans notre dernier verset, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Voilà la clé. C'est encore on revient à cette vocation, à cette définition, les vrais chrétiens, c'est ceux qui sont appelés à une communion avec Jésus-Christ. Tout est possible, l'Église est possible parce que Dieu nous a appelés à une communion par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. C'est pour ça que nous, on dirait jamais hors de l'Église, point de salut. Parce qu'on pense souvent à des bâtiments ou des étiquettes. Mais ce que nous disons, ce qu'il faudrait penser, c'est hors de Jésus, point de salut. Oui, ça c'est vrai. Sans une communion, une vraie communion avec Jésus, on n'est pas dans l'Église. Mais la bonne nouvelle de la Bible, la bonne nouvelle, c'est que par la croix, Dieu a rendu possible cette communion. Dieu a restauré cette communion qui était brisée par Jésus-Christ. Et maintenant, c'est comme ça que nous pouvons savoir si nous sommes dans l'Église de Dieu. C'est que si nous avons une communion en Jésus-Christ avec Dieu et que nous vivons cette communion parce qu'il a restauré la relation entre nous et entre Dieu. Ceux qui vivent cette vraie communion avec Jésus ne peuvent qu'être en communion avec tous les véritables saints. Et ce que nous avons l'occasion de vivre ici, jour après jour, semaine après semaine, dimanche après dimanche, en étant en communion avec Dieu, nous sommes en communion avec les uns les autres, à l'EBTM, et aussi en communion avec tous les vrais enfants à Toulouse, tous ces vrais enfants, les vrais croyants à Toulouse et dans le monde entier. Et ça, c'est le beau projet de Dieu qui est l'Église, et nous voulons y croire, nous voulons le vivre pleinement ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons dans la prière. Seigneur, ce matin, nous reconnaissons qu'il y a deux manières de voir les choses. Il y a cette manière pessimiste où nous regardons nos problèmes, nous regardons le problème des autres, où nous regardons toutes les manières que les hommes nous ont déçus, nous regardons toutes les difficultés de vivre notre foi les uns avec les autres. Ou bien il y a cette manière de regarder comme toi tu regardes, cette manière remplie de grâce et d'amour et de foi en ton projet. Et nous voulons adopter ce matin ton regard sur l'Église, sur ta vraie Église, l'Église de Jésus. Nous te prions que tu nous aides chacun à nous examiner pour savoir si nous faisons partie de cette église. La question n'est pas savoir si nous faisons partie de l'EBTM ou de telle autre église, mais si nous faisons partie de ta famille, parce que nous avons été réconciliés avec toi par Jésus-Christ. Et à partir de là, nous te prions de nous aider à nous aimer les uns les autres, à vivre cette vocation sainte d'être différent, de ne pas réfléchir et tomber dans les travers de ce monde et de ces idolâtries, mais de vivre pour toi, d'après ta pensée, d'après ton l'attitude qui vient de Jésus-Christ, de son amour, de son évangile, de sa croix. Merci pour ce culte que nous avons pu vivre ensemble ce matin. Que chacun soit encouragé à te suivre et te servir au sein d'une église. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.